Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous voilà au bout de l'année liturgique et à cette occasion, l'Église nous fait lire aujourd'hui l'Évangile de la fin du monde. Rappelons-nous tout d'abord les circonstances du discours de notre Seigneur que nous venons d'entendre. C'était le mardi avant la Passion. Le Sauveur venait d'annoncer les malheurs prêts à fondre sur Jérusalem. Étant sorti du temple, où il ne devait plus rentrer, ses disciples lui ont fait remarquer ce magnifique édifice. Dans leurs oreilles sonnaient encore les menaces du Sauveur, mais, en bon juif, ils ne pouvaient pas croire qu'une telle merveille devait être détruite. Enfin, étant arrivés au mont des Oliviers, ils lui ont posé une triple question. Quand ces malheurs arriveront-ils? À quel signe reconnaîtrons-nous votre avènement glorieux? Enfin, quel sera le signe de la consommation du siècle, de la fin du monde? Le Sauveur leur a répondu, mais d'une manière mystérieuse. D'abord, il leur a fait entendre que les portes de la ruine de Jérusalem n'étaient pas éloignées. Puis, il leur a indiqué certains signes qui devaient précéder son deuxième avènement et la consommation des siècles. Enfin, il leur a donné des avertissements sur la conduite à tenir dans ces circonstances. Parmi ces signes, les uns sont particuliers à la ruine de Jérusalem, les autres à la catastrophe finale, et quelques-uns conviennent également à l'une et à l'autre. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, qu'est-ce que notre Seigneur appelle abomination? On peut dire que l'abomination, c'est d'abord, c'est historiquement, l'armée des Romains. Et ceux-ci sont appelés abomination de la désolation parce qu'ils ont ravagé Jérusalem. D'abord, Titus et Vespasien ont fait incendier le temple. Un grand nombre de Juifs a été dispersé. Par la suite, certains se sont encore rebellés, et alors Hadrien a entièrement détruit la ville et a établi une loi selon laquelle aucun Juif ne devait plus y habiter. On peut entendre aussi par abomination les idoles, les faux dieux. En fait, Pilate a introduit dans le temple, dans sa partie la plus honorable, dans le Saint des Saints, l'image de César et des aigles, l'emblème des Romains. On y ajoute le mot « désolation » car, à partir de ce moment-là, les sacrifices ont été interrompus et peu après, cet édifice qui attirait l'admiration et l'envie du monde entier a été brûlé et rasé. Saint Thomas d'Aquin rapporte également ce passage à la fin du monde, et tout spécialement à la venue de l'Antéchrist. Celui-ci est appelé abomination, car il sera venu usurpé, volé, autant que possible, l'honneur dû à Dieu seul. Il est appelé abomination de la désolation, car il doit désoler la terre par les guerres et les flots de sang qu'il répandra. L'Antéchrist sera reçu par les Juifs, car il répondra, on peut dire enfin, à leur attente d'un Messie purement national, purement politique, qui leur assurerait la domination sur le monde entier. Il s'assiera dans le lieu le plus sacré du temple, et les infidèles lui rendront les honneurs divins, dans l'endroit même où les saints de l'Ancien Testament adressaient à Dieu leurs prières. Revenons au discours du vrai Messie, du vrai Christ. Après avoir rappelé le signe de la ruine prochaine de Jérusalem, l'abomination de la désolation, notre Seigneur indique à ses disciples les moyens d'échapper aux calamités qui accompagneront cette catastrophe. Que ceux, dit-il, qui sont dans la Judée, s'enfuient sur les montagnes. Tout cela marque une fuite précipitée, sans prendre le temps d'emporter quoi que ce soit de ses biens. Une prompte évasion sera l'unique moyen de ne pas tomber entre les mains d'un ennemi sans pitié. Et justement, l'histoire nous témoigne qu'à l'approche des armées romaines, les chrétiens de Jérusalem et de la Judée, dociles aux recommandations du Sauveur, se sont réfugiés au-delà du Jourdain, où ils ont trouvé leur salut. À quoi notre Seigneur fait-il allusion quand il dit « Il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. » Cette prédiction s'est vérifiée à la lettre à l'époque du siège de Jérusalem. L'historien Joseph relate qu'il y avait alors des soulèvements dans la capitale. On se tuait les uns les autres. Le chef de l'armée romaine, Titus, voulait les épargner, mais eux ne le voulaient pas. Beaucoup sont morts de faim. Une femme a même mangé son propre fils. Enfin, tout pris ensemble, la guerre civile, la famine et l'épée des Romains ont fait mourir plus d'un million de Juifs de Jérusalem, qui sont afflués pour de grandes solennités, et près de 100 000 ont été emmenés en captivité ou vendus. Notre Seigneur déclare que si le siège de Jérusalem s'était prolongé encore quelque temps, il ne serait resté pas un seul Juif dans cette ville. Mais Dieu, aussi sévère que bon, a voulu abréger ces jours de tribulation en faveur de quelques Juifs chrétiens restés dans la capitale et de ceux qui devaient arriver un jour à la foi chrétienne. À quoi s'appliquent les paroles suivantes? Si quelqu'un vous dit, voici que le Christ est ici ou là, ne le croyez pas. Ces paroles se sont déjà accomplies aux approches de la ruine de la ville maudite, où l'on a vu paraître plusieurs imposteurs, et leur nombre s'est encore multiplié au temps de la prédication des apôtres. Mais cette prédiction convient surtout au deuxième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui verra la prolifération prodigieuse de faux prophètes, de faux Christ. 1000 fois plus dangereux que les premiers, car ils feront des choses étonnantes, de faux miracles qui tromperont beaucoup de fidèles. Ces pseudo, ces faux prophètes diront faussement que le Christ viendra en secret, tantôt dans le désert, tantôt dans un endroit retiré. Mais tout cela ne sera qu'une tromperie. Le second avènement du Messie, ne sera pas humble et caché comme le premier, à Bethléem, dans un petit coin de terre et sans que personne en soit prévenu. Il sera manifesté et glorieux. Descendant du ciel avec éclat, notre Seigneur apparaîtra subitement et simultanément, c'est-à-dire en même temps, à tous les hommes et en tout lieu, comme l'éclair qui jaillit de l'Orient et paraît aussitôt en Occident. Il viendra en toute sa majesté pour juger les hommes au moment où ils s'y attendront le moins. Que veut dire le Sauveur quand il dit « Aussitôt après ce jour d'affliction, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. » Ce passage se réfère bien sûr à la fin du monde. Après la persécution de l'Antéchrist, il y aura dans le firmament des perturbations étranges. Les astres pâliront, s'entrechoqueront, et l'ensemble des lois physiques qui règlent le mouvement des corps célestes seront ébranlées. Et pourquoi cela? Pourquoi cette, si on peut dire ainsi, cette mise en scène? Parce que quand celui qui est la lumière véritable apparaîtra dans toute sa splendeur, le soleil et les astres perdront leur propre éclat. Un peu comme au théâtre, quand l'extinction progressive de toute la lumière annonce le commencement du spectacle. Et justement, ce sera le moment où l'acteur principal entrera en scène. Le Sauveur viendra avec sa croix, croix plus brillante que les rayons du soleil, avec ce signe qui sera pour ses disciples entourés de gloire, mais pour les autres, pour les ennemis, surtout pour les Juifs, la croix sera leur confusion, car cela leur rappellera la mort ignominieuse qu'ils lui ont fait souffrir. Alors seulement, ils comprendront qu'ils ont crucifié celui qu'ils auraient dû adorer. Saint Augustin nous donne de ce passage une interprétation fort intéressante. Il dit que l'Église est tout à la fois le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière. Pourquoi? Parce que l'Église, anéantie, pour ainsi dire, sous les efforts des persécuteurs, ne paraîtra plus. Et que dire au sujet des papes conciliaires, grâce auxquels la fumée épaisse de Satan recouvre de plus en plus le ciel? Les étoiles tomberont du ciel et les vertus des cieux seront ébranlées. Parce que un grand nombre de fidèles qui paraissaient les plus affermis fléchiront sous le poids de la persécution. Notre Seigneur enverra ensuite sur la terre ses anges. Ils recueilleront avec soin les corps des défunts. Ceux réduits déjà en poussière et rappelés à la vie par Dieu, car rien n'est impossible au Créateur qui a fait le corps d'Adam à partir du lumen de la terre, et c'est lui aussi qui pourra le refaire de ses propres cendres. Et ceux aussi dont la résurrection trouvera l'âme unie au corps. Saint Matthieu, dans l'Évangile nous avons eu ce dimanche, termine ainsi les signes qui précéderont la deuxième venue du Sauveur, venant en tant que juge des vivants et des morts. Essayons d'en donner une liste plus complète en tant que possible, en la suppliant par Saint Luc, Saint Paul et Saint Jean dans son Apocalypse. Il y a d'abord des signes précurseurs, des signes d'abord éloignés, ensuite prochains, en tout 5 signes. D'abord les signes éloignés. D'abord la prédication de l'Évangile dans tout l'univers. Ensuite, apparition de l'Antéchrist, ses prodiges et persécutions qui causeront l'apostasie quasi universelle. Ensuite, retour d'Enoch et d'Élie sur la terre, Élie et Enoch, des prophètes de l'Ancien Testament, qui lutteront contre l'Antéchrist, ils seront mis à mort par lui, puis ressusciteront. Et ce sera le signal de conversion des Juifs. 3 signes éloignés, ensuite 2 signes prochains. Sur la terre, guerre, peste, famine, tremblement de terre, bouleversement de la mer et des flots, et dans le ciel, le soleil, la lune, les étoiles pâliront et ne suivront plus leur cours ordinaire. Après les signes précurseurs, le feu consumera tout et changera la face de la terre. Après cela, résurrection générale, les corps des justes seront glorieux, ceux des réprouvés noirs et horribles. Puis, séparation des bons et des méchants, la joie des premiers et le désespoir des seconds. Enfin, apparition du souverain juge, précédé de l'étendard de sa croix, accompagné de toute la cour céleste. Après tout ce que nous avons vu, demandons-nous pourquoi exactement notre Seigneur nous prévient de sa deuxième venue par ces signes terribles. Est-ce seulement pour nous faire peur? Saint Grégoire nous donne la réponse. Les javelots qu'on voit venir sont moins dangereux. On pourrait un peu actualiser cette comparaison et donner l'exemple d'un radar qui nous prévient à l'avance du danger, nous montrant les forces d'ennemis s'approcher, nous laissant le temps à nous y préparer. Notre Seigneur nous invite donc, soyez attentifs, et vigilant, et tenez-vous toujours prêt. Mais comment le mieux pouvons-nous y préparer? Pour la réponse, allons à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui indique à la très sainte Vierge Marie un rôle tout particulier dans les derniers temps. En fait, Notre-Dame éclatera plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce, vers la fin du monde. En miséricorde, pour ramener et recevoir ceux qui se convertiront et reviendront à l'Église. En force, contre les ennemis de Dieu, idolâtres, juifs, musulmans, francs-maçons. Et en grâce, pour animer et soutenir les fidèles serviteurs de son Fils. Marie est terrible au diable et à ses suppôts, terrible comme une armée rangée en bataille. On peut même dire que Satan appréhende, d'une certaine façon, plus la Sainte Vierge que Dieu même. Pourquoi? Parce que Satan, étant infiniment orgueilleux, souffre plus d'être vaincu par une humble servante de Dieu, par une Ancilla Domini. Et Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre le diable qu'il craint même un seul soupir de Notre-Dame pour une âme, une seule menace contre lui. Eh bien, soupirons donc à elle, souvent, quotidiennement, en égrenant notre chapelet et surtout en famille. Supplions sa protection. Cachons-nous en sécurité sous un de ces boucliers spirituels, comme le scapulaire ou la médaille miraculeuse. Et si nous lui serons fidèles, jusqu'au bout, elle ne nous laissera pas périr. Et au jugement dernier, assise à la droite du souverain juge, elle nous gratifiera de son sourire maternel. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.